on rappe ce qu'on vit et ce qu'on voit. Superstar dans le ghetto. C'est-à-dire, on brille, mais on est toujours dans le ghetto. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bouger. T'es là, tu peux être là, mais il faut pas rester là. T'as réussi, pars. Et donne l'espoir aux autres aussi de partir, et ainsi de suite. C'est pas tu réussis, tu restes là, en fait. Que le but, c'est de réussir et de partir, en fait. Ce que nos parents, à l'époque, auraient voulu faire. Il faut bosser à mort. Je pense qu'il faut même pas compter ses heures. Je crois même que c'est le truc principal. Moi, je veux monter une structure. Donc, c'est lui qui nous a ramené l'histoire de structurer le truc. Votre musique, elle a ça, elle a cette force, mais il faut habituer les oreilles des gens à l'écouter. On a vendu des 400 000, 500 000. Et il y a une phrase dans le premier album où on dit « T'as vu maman, on l'a fait ?» Parce qu'on l'a fait comme un travail. Et l'idée était partie dans un hall, on a fini dans un gros bâtiment. Il y a encore plus de choses à dire aujourd'hui qu'avant. Donc je ne comprends pas que les mecs parlent de leur bite et leur couteau.
Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleecho.com/podcast. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir Calbo avec nous. Donc ça y est, maintenant vous savez pourquoi le jingle du podcast, c'est l'instru de Regarde le Monde.
Oh, la chance, je ne sais pas.
Ah si, beau morceau. Donc merci à toi, Calbo, d'accepter
merci,
de venir.
Merci à toi de me recevoir.
Tu sais que le grand but de ce podcast, c'est d'arriver à faire le joint, à faire la maille entre différents publics
ouais.
qui ne se parlent pas naturellement,
ouais.
qui ne s'écoutent pas et qui ne se comprennent peut-être pas tout le temps.
Ouais.
Et voilà, c'est pour ça que je suis très content de te recevoir.
Comme j'ai trouvé le truc intéressant, moi je suis venu. Pour voir une nouvelle expérience, on va voir ce que ça peut donner.
Hein? Alors, on va te présenter aux gens qui ne te connaissent pas, parce qu'on est sur les deux faces de la montagne. Donc, Calbo, bah, c'est la moitié du groupe Arsenic.
Ouais, c'est ça.
Grand groupe des années 90-2000.
Voilà.
Et même 2010-2020, voilà. Vous avez fait beaucoup de choses, on va y revenir.
Ouais.
C'est aussi la participation à plusieurs collectifs de rappeurs. Donc, tu vas nous expliquer ce que c'est qu'un collectif,
ouais.
ce que c'est que Secteur A, qu'est-ce que c'est que cette logique derrière.
Ouais.
Et puis le rap aussi. Qu'est-ce que c'est que le rap en fait? Parce qu'il y a plusieurs visions, mais le rap de Paris, en tout cas de Villiers-le-Bel, c'est toute une histoire.
Ouais.
Donc, Arsenic, c'est quoi dans les années 90? Explique-nous un peu, refais-nous vivre.
Arsenic, c'est deux frères qui n'ont aucune ambition dans le rap, déjà. Deux frères, déjà, des différents dans nos domaines, parce que mon frère, lui, il était plus... il aimait beaucoup lire aussi, il aimait... lui, c'était plus... comment dire? Il était plus... tu sais, moi, j'étais un peu un petit loup solitaire. J'ai longtemps quitté la cité pour aller jouer au foot dans plusieurs clubs différents. À l'époque d'Arsenic, si on passe tous les détails de l'époque, moi j'avais un CDI quand on a décidé de faire Arsenic.
Et donc, en 92 donc.
Voilà.
T'avais quel âge?
Ah, je sais plus. C'est tabou. Non mais je sais plus. C'est une bonne question ça. J'ai jamais noté ce truc. C'est comme si cette question me l'a tellement jamais posée. Quel âge avais-tu à l'époque où vous avez commencé? Non, c'est toujours. À quelle époque vous avez commencé? Donc on retient les 94, 92, mais quel âge on avait? C'est vrai.
T'avais quoi, 18 ans?
Ouais, par là. Hein. Puis nous, on a commencé à l'époque du hip-hop, hein, Run DMC, Africa Bambaataa. Tu sais, nous, on est un peu la troisième génération du hip-hop quand ça arrive en France avec Sydney, Dynasty, tout ça. Et après, il y a tout ce qui est IAM, NTM, et nous, on vient juste après. Donc, mais on a mangé cette époque de hip-hop, de break, de tourner sur la tête et machin. Et donc Lino et Calbo, c'est deux frères, c'est un qui est plus dans le rap. Donc Lino était plus dans le rap, moi j'étais plus dans le foot et puis j'avais mon boulot. Donc,
tu faisais quoi comme boulot?
J'étais rentré en... C'est maintenant que tu me poses la question. En électrotechnique. Voilà, on faisait des faux Canal Plus et tout, en soum-soum.
Électrotechnique.
Et donc je vais attendre tes questions parce que si
il faisait quoi à cette époque Lino lui pendant que tu faisais électrotech?
On était des écoliers clandestins, c'est-à-dire qu'on était bons à l'école, surtout dans les lettres, le français, tout ça, Et on était aussi très bons dans la délinquance. Donc, il fallait choisir. Et puis, voilà, à choisir, on était des très bons délinquants.
Mais la délinquance, parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas le même sens. Quand tu dis délinquance, c'est pas, voilà. Donc, pas
si
les gens.
Veux, si
pas
tu
la...
veux, c'est un peu. Si je veux rentrer un peu dans l'histoire, c'est qu'on s'est toujours dit, au vivant de mon père, peut-être qu'on n'aurait jamais fait du rap. Et parce que justement, lui, il était très école, très. Donc, après le décès de mon père, on a beaucoup écrit. Et puis, tu vois, on a un peu mis l'école de côté parce que. Moi, je me rappelle, j'avais toujours des beaux cahiers, des beaux trucs. Même Lino était très fort à l'école. Et puis, on a vite arrêté avec tout le milieu de la banlieue. Il faut faire de la maille, il faut faire, tu vois.
À quel âge vous aviez quel âge quand il est décédé, votre père?
Encore une fois, tu me poses une colle. Tu sais, on dirait que
collège,
c'est
lycée.
Voilà, c'est un peu collège, lycée. C'était en 95. Donc, quand on a commencé, vraiment, en 94 à peu près. Et c'est là où on s'est vraiment lancé, mais encore une fois, sans ambition, quoi.
C'est pour ambition. Le plaisir, quoi.
Voilà, pour le plaisir.
Et comment... le rap, c'était quoi? C'était un moyen de s'exprimer? C'était...
C'était... À l'époque, les stars de l'époque, c'était les danseurs. Nous, on avait un groupe de danseurs à l'époque qui était très connu, les GBF. À l'époque, c'était très connu, dont un des membres habitait à Villers-le-Bel, justement, dans nos quartiers. Et à l'époque, pour les meufs, pour la télé, pour les machins, c'était les danseurs. Et les DJ arrivaient un peu après, parce que bon, le DJ, tu sais, dans les carrés des DJ, il y a toujours une meuf avec lui à côté, il passe ses machins. Donc, il y avait une petite attractivité pour le DJing, mais le rap, non, c'était en second plan, en troisième plan. Et donc, nous, comme on aimait les lettres, moi, je sais que j'adorais les dissertations en français et tout ça, et on lisait beaucoup, on était très cinéphiles aussi. Donc, on était plus portés sur le rap, l'écriture, tout ça. Et voilà pourquoi on a choisi le rap. Mais c'était vraiment comme un hobby, quoi, comme je t'ai dit au début, quoi.
Parce que le gros album qui vous a lancé, c'est Quelques Gouttes Suffisent,
ouais.
En 98. Ouais. Donc tu me dis, en 95, on était en bas de l'immeuble, quoi.
Ouais. Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé entre 95 et 98? Comment est-ce que... En fait, ce que tu nous dis, c'est qu'à la base, vous étiez deux gamins qui écrivaient, ouais, un peu comme ça, ouais, et puis qui faisaient du rap en bas de l'immeuble.
Ouais.
Comment on passe à l'Olympia, tu vois, en trois ans?
Alors, si je te fais un petit résumé de l'histoire, nous, on écrit la première fois sérieusement pour faire partie d'une sortie. On a un gars qui s'appelle Miguel qui arrive dans nos quartiers à Villers-le-Bel, au centre. Donc, c'est un gars qui s'occupe du centre et qui nous dit « Ouais, je vais organiser une tournée, je vais organiser un événement en Hongrie. » En Hongrie, pays de l'Est. On dit « Ah, ok. » Et donc, à l'époque, quand tu es en bas de ta tour, tu fais rien. L'autre, il vient avec un
C'est où la Hongrie, mec
plan, ben, Hongrie. Il dit « Bah ouais, c'est intéressant, c'est marrant. On va bouger un peu de notre quartier, du bas de l'immeuble. » Et il dit « Bon, vous faites quoi ? Ah, nous, on danse. Vous faites quoi ? Ah, je suis DJ. » Et vous faites quoi? Bah, nous on rappe un peu, on écrit. Ah bon? Bah, réunissez-vous, faites-moi un petit show et puis montez-moi un petit truc. Et avec votre petit truc, je vous emmène en Hongrie. Et donc nous, on s'est réunis, on a monté le petit truc entre nous. Et là, on a fait partie de ce voyage. Et c'est là où on a fait sérieusement le premier petit show. On s'appelait même Parsonic à l'époque. On était avec notre pote Richie Bonap et mon frère et moi. Et on a monté ce show avec un DJ, avec 3-4 danseurs. Que des mecs qui se connaissaient, tu vois, et on a monté ce truc. On est parti en Hongrie, tu imagines bien le truc. Je me rappelle, on était parti en train couchette quand on arrive près de l'Autriche. Tu sais, il y a les douaniers qui montent. Tu te rappelles à l'époque des nazis et tout. Tu vois, ah, ça parle allemand, c'est chelou. Et nous, on sortait notre banlieue, on arrive en Hongrie comme ça, bam, Budapest, Debrecen et tout ça. Et donc, c'est la première fois qu'on a fait un truc. Le pourquoi on a écrit un peu sérieusement, ça a commencé là en fait. Et après, ce qui s'est passé, c'est... pour faire ce morceau, pour faire ce petit show-là, on a demandé à un moment donné à un gars du quartier, donc le fameux GBF qui était un peu connu, on lui dit « Ouais, tu connais pas quelqu'un qui fait des sons ?» Parce que souvent, on grattait des sons à l'époque, un peu n'importe où. Et on lui dit « Tu connais pas quelqu'un qui fait des musiques pour qu'on puisse écrire pour le show ?» Il dit « Ouais, non. Ah si, il y a un gars que je connais qui fait une compilation. » On dit « Ah bon ? Ouais, le samedi, je fais une soirée, il sera là. Donc, venez le voir et puis parle avec lui, quoi. » Donc, on est arrivé, on a vu le gars, on lui a dit « Ouais, tu tu fais des sons, lui, il était un peu débordé, un peu hein, réticent, un peu, ouais, ouais, je fais des sons, ouais, vous êtes qui, vous, ouais, c'est comment. Tu sais, vraiment, rapper à l'époque, c'était pas trop. On lui dit, ouais, après, il nous dit, ouais, ok, au milieu de tous ces sons, sa compil était presque finie, pratiquement finie, mais il lui restait un son qui lui tenait un peu à cœur et que personne n'avait pris. Tu sais, le fameux son que personne veut, là. Mais nous, on s'en foutait, on voulait juste un son, on s'en fout. Donc, il dit, vas-y, on le prend. Il dit, vas-y, passez demain chez moi, chantez dedans. On va voir. Et donc, nous, on est passé. Alors, nous, on est donc passé chez lui et on l'a dit, bah, vas-y, il a mis le son. Il nous a dit, vas-y, rappez. Comme ça, bon, trouvez ça un peu, hein. Mais on a dit, vas-y, c'est pas grave, on y va, on a rappé, papa, papa. Et lui, il est pas mal. Il a trouvé ça. Bah, il dit, bah, écoute, comme il avait souvent beaucoup de sons qui se ressemblaient dans la compile, ce son-là était le seul son différent, un peu plus dur, un peu plus new-yorkais. À l'époque, c'était un gars de Sarcelles, lui. Donc à l'époque, c'était très LA, West Coast, machin. Et ce seul son, c'était le son dur, un peu à la new-yorkaise, tout ça. Et nous, on a rappé dessus. Il a dit, ah, il était sûrement agréablement surpris, vu la tête qu'il a fait quand on a rappé. Il a dit, bon, vas-y, ben, vas-y, on va l'enregistrer direct dans la compile. Et nous, on n'était pas là pour ça, tu vois. Et on était là pour, il donne nous le son, on part avec. Et il nous a dit, non, vous allez le mettre dans ma compile. Demain, venez en studio. La première fois qu'on allait en studio, devant un micro, enregistré. Et donc, on s'est dit, bon, ok, nous, on suivait, tu vois. Et tac, on est parti. Le lendemain, il nous ramène en studio. On pose le morceau. Papa, box avec les, Baltrap à l'époque, ça s'appelait Baltrap. On pose. Et on. Donc, on rentre chez nous. Et deux jours après, il nous appelle et il nous dit, ouais, mais c'est quoi votre nom pour la pochette? C'est quoi votre nom? Il dit, merde, on n'a pas
de
nom.
Vous y avez pensé?
On n'avait pas de nom. Il dit, bah non, bah, Calbolino. Merde. Ah ouais, il faut un nom de groupe. Bah, vas-y, on s'est enfermé. Il dit, vas-y, on te donne le... Demain, on t'appelle et puis on te donne un nom. Et on sait, toute la nuit, on a cherché, Et à un moment, on est tombé sur Arsonic, de l'art sonic. Mais à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Ragasonic. Donc, on s'est dit, ah, ça ressemble trop. Après, arsenic, vas-y, le poison, ouais, ça soigne, ça guérit. Avec un A, avec un K, ok, vas-y, arsenic. Et le lendemain, tac, on a dit, ouais, on s'appelle arsenic, tout ça. Donc, il a mis le morceau dans sa compile. Boum, ça tournait un peu dans les radios spé. Et pour te faire un résumé rapide, pourquoi on est devenu Arsenic, Secteur A et tout ça, c'est qu'un jour, le fondateur du Secteur A, qui s'appelait Kenzie, rencontre donc le fameux Didier Desch qui a fait cette compile, où il y a une vingtaine de groupes dedans, et il lui dit, ouais, il y a un groupe de... Lui, il avait déjà Ministère Hammer, Doc Gineco, Neg Marron avec lui, et il lui manquait ce groupe à Kenzie pour... Dans son plan, parce que Kenzie, c'était un mec qui réfléchissait beaucoup, il lui manquait ce groupe un peu punchy qu'il a trouvé en nous quand il écoutait cette compile. Il dit, waouh, c'est le groupe qui me manquait pour lancer mon secteur. Et donc là, il nous convoque, il va voir le mec qui a fait la compile, il lui dit, ouais, il y a un groupe dans ta compile qui m'intéresse. Et le gars, il dit, ouais, non, mais tu touches pas un tel. Je suis en plan avec un tel. Il dit, ouais, non. Moi, c'est eux, là, Arsenic, là. Il dit, ah ouais, vas-y. Ok, d'accord, ok. Donc, tiens, leur contact, tout ça. Donc, ils nous contactent, ils nous convoquent à Sarcelles, à la secte Abdoulaye. Donc, dans un hall, ghetto, on voit le Renoir Lunette qui vient avec son sac à dos, qui nous parle un peu comme Malcolm X, Martin Luther King, laissez la NPE, venez. Vous avez un talent, votre style, il est compliqué pour les gens, mais dans 3 ans... tac, après quelques compiles, dans 3 ans, vous sortez un album, vous niquez tout. Moi, je le regardais, je dis, c'est qui ce fou, là? Qu'est-ce qu'il raconte? Et demain, je travaille, j'ai entraînement, l'autre, il est en train de me parler de ces trucs dans un hall, ça pue la pisse, il y a des pitbulls dehors. C'est quoi, ça? Et je vois, mais par contre, à côté, je voyais mon frère qui écoutait comme ça, il me dit, ah ouais, mais c'était son truc. Et je dis, moi, la décision était rapide, quand je dis, écoute, c'est intéressant ce qu'il raconte quelque part, mais est-ce que ça peut être vrai? Vas-y, je vois que mon frère kiffe. À l'époque, on ne vivait pas la crise comme aujourd'hui, on trouvait du boulot tout le temps. Donc moi, j'ai dit, vas-y. Lui, il avait déjà dit, arrêtez de travailler, il me sortait des trucs de fou. J'ai dit, vas-y, c'est tentant, il y croit. Vas-y, on va essayer de voir. Vas-y. Et ben, de ce vas-y, c'est jusqu'à aujourd'hui, 30 ans de musique. Hein. C'est-à-dire tout ce qu'il nous a dit, et ben, ça s'est passé. C'est-à-dire on a commencé dans des compiles, hostiles, L432, machin, et des featuring dans les albums des autres. Et les gens ont commencé à être habitués à entendre ce groupe Arsenic et commencent à se demander, mais c'est qui ces deux-là là? Et à partir du moment où le public a commencé à dire, à quand l'album d'Arsenic? Ben c'est là où on est parti s'enfermer à Toulouse, en Blagnac, et on a fait l'album en quelques mois, et le premier album, quelques gouttes suffisent. Voilà.
Parce qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Déjà, le fameux Kenzie, c'est quelqu'un qui est visionnaire, en fait, qui a une... Il est dans son immeuble, mais en attendant, il voit déjà... Il voit loin, il comprend. Il comprend ce que c'est que la banlieue, d'où vous venez. Ce que votre rap dit, parce que c'est un rap dur.
Ouais.
Et c'est un rap de trip.
C'est-à-dire que lui, c'est le seul qui a su décortiquer, comme on aime à dire, notre kung-fu, quoi. C'est-à-dire que lui, à l'époque, je me rappelle, c'était une époque où l'écriture était très scolaire, c'était Solar, c'était... des groupes, l'écriture quand je dis scolaire, c'est très clair, lève les mains, balance-toi, nanani. Et nous, on est arrivé, je me rappelle mon premier couplet où je disais 3 macaques, attaque à la ca, mon cerveau bouillacasse, tiré à bouillacasse, beau bouillacasse. Non, c'était que des mots, cacolé, cacacac, maléfice, rap, pyromane, style, frappe hostile comme un scorpion, morpion, t'es déjà morpion, alerte, j'augmente mon scorpion, dans mon jeu, t'es mis en échec. Donc c'était très des mots qui se ressemblent, qui sont collés. Il y avait un travail que lui, il a senti, et que les autres, pour eux, c'était compliqué. C'était,
Il y a de la rime frappée.
Voilà.
Quoi.
Et il a dit, non seulement il y a de la rime frappée, mais en plus, il y a de la recherche, des mots, c'est pas genre tu balances un texte comme ça scolaire. Il a dit, non. Il a dit, mais les gens ne sont pas habitués à ça encore. Et donc, lui, il dit, non, eux, dans 3 ans, il avait déjà fait son calcul et voilà.
Donc, il a mis, en fait, le principe, c'est que, parce que dans le rap, moi, au début, j'ai regardé, il y a un mois et demi, je te connaissais pas, parce que moi, j'étais métal, moi, quand j'étais ado.
Mais nous aussi, on kiffait.
J'avais les
métal,
cheveux
là. Moi, je kiffais, Scorpion, Guns N' Roses, ACDC.
Et du coup, j'ai regardé, j'ai commencé à écouter les interviews, à lire les fiches et tout, puis je me dis, putain, quand même, les gars, ils ont fait 3 albums en 30 ans. Soit ils n'ont pas fait grand-chose, soit ça ne marche pas pareil. Ouais. Et en fait, ça ne marche pas pareil, le rap. C'est-à-dire, et ça, c'est peut-être le Kenzie. Enfin, en tout cas, il y a une démarche collective, il y a une démarche de parrainage, de cooptation entre artistes. Et finalement, l'album, c'est pas comme du Goldman ou du... Ça a un autre rôle, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, justement, ce lien entre des interventions comme ça, un peu j'apparais, je disparais, je suis là, je suis là-bas, et puis petit à petit, j'égrène mon album, et à un moment, l'album, ça vient cristalliser un artiste, en fait.
Mais surtout qu'à cette époque, il y avait beaucoup de featuring, beaucoup de compiles, tu étais connu, tu faisais un peu ton nom dans les compilations. Il y avait beaucoup de... Entre les albums, il y avait des compilations Première Classe, L432, Hostile... On a paru dans plein de compilations, donc c'était un peu des sortes de... C'était pas des clashs, mais des compétitions entre les artistes. Puis il y avait beaucoup de featuring aussi, les gens t'appelaient pour chanter avec eux. Donc entre les albums, il y avait beaucoup d'activités aussi. Et donc c'est vrai que comme tu dis, on prenait le temps de faire un album déjà, parce qu'à l'époque aussi, il faut écouter un album. Un morceau, ça pouvait durer 6 minutes, des 32 mesures, un couplet. Aujourd'hui, c'est 8 mesures, un couplet. C'est-à-dire 32 mesures, c'est 32 phrases. Et à l'époque, et aujourd'hui, c'est des 8 phrases, machin. Donc, vraiment, il y a une prise de tête. C'était un long travail. Tu sortais épuisé à faire un album. Des fois, les gens mettaient une pige à faire un album. Et tu le travaillais pendant 10 ans, l'album au moins, avec les concerts, les tournées. Jusqu'à aujourd'hui, on nous demande de chanter Boxe avec les mots qu'on a écrit en 97. Donc, t'imagines un peu. Donc, c'est que le morceau, il est costaud. Donc, il tient encore jusqu'à aujourd'hui. On nous demande les morceaux qu'on écrivait, qu'on a écrits en 97.
Mais parce que ça traduit quelque chose aussi. Moi, j'ai tout écouté, du coup, pour... Et en fait, il y a ce message, en fait, qui apparaît dans les années 90 avec ce que le rap dur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a une émotion, il y a une force qui transparaît et qui prend les gens aux tripes et au cœur, en fait.
Mais je disais, c'est pas du rap dur. On disait, c'est du... On rappe ce qu'on vit et ce qu'on voit. Donc la société, la vie était dure, comme aujourd'hui. Et c'est ce que le travail que les rappeurs peut-être ont omis et ne font plus. Ils sont plus nombrilistes aujourd'hui. C'est plus moi, ma bite et mon couteau. Alors qu'à l'époque, on chantait pour les gens. J'ouvre ma fenêtre et je chante ce que je vois, ce que je vis à la maison, ce que mon pote y vit, ce que je vois en bas. Voilà, c'était la simplicité du truc. Pour nous, c'était de chanter ce qu'on vivait et qu'on voyait. Alors là, je ne sais pas si tous les rappeurs aujourd'hui ont des piscines, des 25 meufs et de la drogue et des kalachnikovs. Moi, je ne sais pas. Je ne pense pas, d'ailleurs. Mais non, je chantais pas ça.
Ah, ils se tapent dans les aéroports. Ouais, et tout,
tu vois. Donc, c'est ce truc. Nous, on chantait vraiment la vie. Quoi. Et pourquoi on a eu ce succès, je pense, c'est parce que les gens se reconnaissaient dans ce qu'on disait.
Mais c'est un moment, enfin ça tu le fais assez naturellement, entre guillemets, ouais, quand tu es dans cette période. Ouais. Mais ça devient compliqué parce que quand tu es anonyme ou connu de ton quartier, ouais, et que tu finis à l'Olympia, t'es, ouais, porté par ce que t'écris au début, mais après ta vie elle ressemble plus à...
Mais je pense
que... Tu vois, ça, tu, au bout d'un, quand t'as 30 ans et que t'as, ouais, fait, t'as un grand succès, tu peux pas dire « il est dimanche matin, on est en hiver, j'ai galéré à trouver des fraises chez Bouge, ouais, tu vois. » Ta vie, elle est plus la même.
Après la suite, c'est vrai, automatiquement, un moment dit « t'es le plus beau », tu commences à y croire, t'as vu. Mais non, en fait, je pense que l'éducation fait que tu restes quand même... Nous, on se prend pas la tête. On s'est jamais pris la tête avec mon frère. Et tu sais, on a même ce truc qui est tout con, mais qui est lourd de sens. C'est-à-dire, quand on arrive encore aujourd'hui en tournée, on serre la main au mec qui fait le son, celui qui... tous les techniciens, les machins, on dit bonjour à tout le monde, content, vient. Et eux-mêmes, ils sont étonnés des fois que l'artiste vient dire « Ah ouais, merde !» Et tu sais, on s'est jamais pris pour, entre guillemets, comme on dit, on s'est jamais pris pour des stars, nous. C'est parce que justement, on a toujours fait le truc. On l'a jamais pris le rap comme un taf, en fait. Et de ce fait, ben, tu circules normalement. Tu sais pas, peut-être que le fait d'avoir grandi dans les quartiers, on fait que peut-être on a le cuir un peu plus dur. Et que je me souviens même des fois, je me baladais à la grande époque de secteur A tout seul, à Châtelet-Léal ou quoi, et je rencontrais des clans, des gangs de mecs. Je dis, mais il marche tout seul, mais comment, c'est où tes gardes du corps? Je dis, mais pourquoi, tu veux me faire quelque chose? Non, bah alors, que tu laisses moi garder mon corps. Tu vois? Donc c'est des trucs comme ça. On a
d'ailleurs, t'habites toujours à Villiers-le-Bel, non?
Non, je suis toujours à Villiers-le-Bel parce que je m'occupe un peu des jeunes, du club de tennis, du machin. J'ai des trucs là-bas, mais tout ça, nous on dit toujours, tu sais, Villiers pour nous c'est un petit village. Et quand tu as grandi à Villiers, tu restes toujours à Villiers. Mais bien sûr, le fait que tu gagnes de l'argent, ben, tu pars. J'ai encore plein d'anecdotes là-dessus, mais je me dis, à un moment donné, quand tu grandis dans un endroit qui est, entre guillemets, ghetto, mais bon, après, quand tu compares avec les ghettos brésiliens, ça n'a rien à voir, mais nos ghettos à nous, qui sont quand même dégueulasses, tu te dois déjà pour partir. Ça donne un espoir aux autres. Automatiquement, quand tu commences à gagner de l'argent, quand tu grandis dans les quartiers, la première chose que tu fais, c'est pas de te dire je vais partir. Tu te dis non, je vais décorer ma chambre, je vais mettre un plasma, je vais mettre un autre tapis, je vais donner de la maille à maman, je vais changer la cuisine. Le premier truc que tu dis, je vais mettre un canapé dans ma chambre. Avant, on était 12 dans des lits superposés. Maintenant, tac, sur des beaux lits superposés. Le premier truc que tu dis, c'est ça. Tu ne dis pas, je vais partir. Parce que c'est un peu l'inconnu. C'est non, là, c'est mon cocon. Donc, je veux rester là, mais je vais embellir mon truc. Donc, nous, on était tout en Cosse là. On était en Lacoste, mais des plus beaux Lacoste. Mais on était toujours en bas du quartier. Ma première voiture, je l'achète. Tout le monde la conduisait en bas du quartier. Mais t'es toujours au quartier. On commençait à dire, ouais, superstar dans le ghetto. C'est-à-dire, on brille, mais on est toujours dans le ghetto. Et du coup, à un moment donné, tu déranges qui? Mais tu déranges les gars qui sont avec toi.
Est-ce que ça inspire ou est-ce que ça jalouse? Ou est-ce que ça déprime?
Ça jalouse automatiquement. Mais toi, tu ne le vois pas parce qu'en fait, toi, tu ne changes pas. Mais en vrai, tu changes puisque ta situation et ta condition a changé. Et les autres qui ont grandi avec toi, eux, ils sont toujours pareils. Et donc, on te regarde. Et puis, tu renvoies un reflet quand le mec, ton pote, il rentre chez lui et sa mère dit « Mais c'est pas ton copain que je vois à la télé, là. Mais toi, c'est comment, toi, hein ?» Donc, lui, du coup, ben ouais, là, tu commences à serrer des mains, mais ils sont des mains molles, tu sais. Les poissons morts, tu vois. Et donc, tu dis « Ah ouais. » Et là où j'ai vraiment vu que ça gênait, j'avais un Merco à l'époque, une Mercedes comme ça, tac, et je roule en plein cagnard, et c'était les jours de grève, les gros jours de grève où il n'y a plus de bus, là, tu vois. Et je roulais comme ça, pare-choc contre pare-choc. J'avais la tête décapotée, voiture de place, c'est les voitures de traite, là. Il n'y a pas de place derrière. Tac, je suis là comme ça, je roule décapoté, j'arrive à un arrêt de bus. Et il y avait du monde, mais ils attendaient un bus qui n'arrivait pas. Et je tourne ma tête comme ça et je vois tout le monde qui me regarde, mais avec des yeux de haine, comme si je les insultais en fait. Et je me dis, ouais, ah ouais, mais... en fin de compte, c'est comme une insulte en fait, presque. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai qu'il faut quand même bouger. Tu es là, tu peux être là, mais il ne faut pas rester là. Tu as réussi, pars. Et donne l'espoir aux autres aussi de partir et ainsi de suite. C'est pas tu réussis, tu restes là en fait. Que le but, c'est de réussir et de partir en fait. Ce que nos parents à l'époque auraient voulu faire.
Ouais, parce qu'il y a quand même toujours cet espoir, en fait, parce que en banlieue, les gens, globalement, ils sont fiers de leur lieu d'origine.
Bien sûr, puisque c'est là-bas.
Mais il y a cette envie de partir.
Ouais, exactement. Bon, vraiment, si tu poses la question à un banlieusard, tu veux vivre là et tu veux mourir là, il te dira jamais oui. Mais en vrai, c'est peut-être il a pas le choix. Mais aujourd'hui, le calbeau d'aujourd'hui te dira si, on a toujours le choix. Mais il faut se battre et... Nous, on l'a fait, tu sais, quand on a chanté, je me rappelle, mais à part moi et Lino, personne n'y croyait. Hein. À part le Kenzie qui est venu, qui nous a dit, ouais, je vois en vous, il nous a fait croire qu'on était les meilleurs, les plus beaux.
Mais c'est pas faux,
mais
hein.
Personne
ne
personne le croyait.
Il était pas que con, lui.
Et ouais, et nous, on l'a cru au fil du machin, mais quand on a cru l'album, c'était nous deux. Et c'est pas les mecs du quartier ou les mecs. Il me disait qu'on va réussir, qu'on va faire l'Olympia, qu'on va faire le Zénith, qu'on va faire... Non, personne.
Alors, et est-ce qu'il le disait à tout le monde ou c'était qu'à vous?
Ah, il le disait à nous, mais sûrement il le disait, il devait menacer quelques gens pour... mais voilà, mais au moins il nous a fait croire que... Ben, il était tellement clair dans son projet que nous, on a adhéré tout de suite. On a dit, ah ouais.
Bah, avant d'aller plus loin, on va casser un mythe. Est-ce qu'il faut bosser pour réussir?
Il faut bosser à mort. Je pense qu'il ne faut même pas compter ses heures. Je crois même que c'est le truc principal, c'est-à-dire que tu ne peux pas réussir si tu ne bosses pas. Dans le sens où nous, on ne comptait vraiment pas nos heures. Je me rappelle, on faisait des studios de 11h à 11h le lendemain, c'est-à-dire 24h, et on ne se rendait même pas compte. Et on avait la chance que c'était un kiff, et tu bosses encore mieux, et beaucoup quand c'est... En plus, tu kiffes. Mais si tu veux, pour réussir, il n'y a rien d'autre que le boulot.
Il y a 10%, enfin, moi je dirais un tiers de chance, un tiers de boulot.
Un tiers de chance, ben, comme on dit, la chance c'était le jour où il nous a donné notre chance, il faut la saisir. Si tu as la chance de sentir que ce moment-là, peut-être elle arrive toujours une fois, peut-être une fois, allez deux fois, mais ce jour-là, il faut la repérer, il faut foncer. Et le jour après, on a ta chance, mais c'est ceux qui bosseront plus que les autres, qui auront plus que les autres. C'est automatique. On ne se rend pas compte, la match boulot, tu sais, le public voit toujours le morceau fini. Mais on ne voit pas les heures de studio, à ne pas dormir, machin. Et voilà, donc, ouais, c'est, pour répondre à ta question, c'est 90% de boulot hein, et 10% de chance, hein, la réussite.
Mais à l'école, est-ce que vous étiez bosseur?
On était... Alors, pour ma part, moi, je dis toujours aux gens, ouais, je suis arrivé à la porte du bac, mais je ne suis pas rentré. En gros... J'aurais pu, parce que j'étais, moi je le voyais dans mes cahiers, même ma mère me dit, waouh, j'étais bon au foot aussi, j'étais bon. Jusqu'aujourd'hui, hein, je fais bien la cuisine, je dessine bien. Non, j'aurais pu si j'avais vraiment des. Ce serait aujourd'hui, le calbo d'aujourd'hui te dira, ah, si j'avais un mec qui m'avait dit oui. Par exemple, un exemple tout con, on dit toujours, ah, je suis nul en maths. Ouais, ça, c'est une phrase que tu entends tout le temps, ah, je suis nul en maths. Ouais, j'aime bien le com, je suis nul en maths. Ben, nous aussi, on disait ça, je suis nul en maths. Ben un jour, on a un oncle qui est arrivé, qui a habité un an, deux ans chez nous. C'était un prof de maths. Ben, il nous a expliqué les maths, tac, 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 tac. Ben, j'étais plus nul en maths. Juste parce que j'ai compris le truc. En fait, on ne fait pas l'effort. À partir du moment où tu te dis que tu es nul, ben, tu seras nul. Mais si demain, tu travailles un truc, ben, tu seras bon.
Ce que je veux dire, c'est qu'à l'école, vous bossiez ou alors c'est quand vous avez commencé à aimer ce que vous faites que vous avez bossé?
À l'école, non, parce que je vais te dire la vérité. Je bossais ce qu'il fallait bosser, mais j'étais un chef de bande, moi. Donc, il y avait ton statut de chef de bande et là, t'as pas le temps, il faut gérer ton groupe. Et même à l'école, quand t'es un meneur, hein, je me la raconte et ils se reconnaîtront les gens. Moi, j'étais un meneur, donc le fond de la classe. Donc, tu vois, donc t'aurais pu être bon, mais L'environnement aussi fait, nous on était une famille nombreuse, on était une dizaine à la maison. Parce que quand je dis une dizaine, on était 9 enfants, mais avec les 2-3 cousins qui ont squatté pendant les 20 ans, là, ça faisait une dizaine. Et ben ouais, mais on dit tu peux t'en sortir, mais tu n'as pas l'environnement pour. Et du coup, tu peux vite vriller, parce qu'en plus, après, il y a eu le décès de mon père, donc ma mère qui travaillait. Donc, on se fait vite tout seul, tu vois, le système D, allez, on va chercher la gagne un peu tout seul. Et puis, tu es super bon dans ce que tu fais. Moi, j'étais un très bon voleur. Par exemple, là où, je vais sortir des
les dossiers.
Là où, moi, je me rappelle, là où les gens volaient dans les magasins et mettaient sur eux, moi, je prenais un caddie, je le remplissais à ras-bord. Et j'arrive à la caisse, je pousse le caddie. Je sors un paquet de gâteaux à 2 francs, je le pose sur le caddie, je le pose sur le tapis et je regarde la caissière. Et la caissière, elle me regarde, mais et je pousse mon caddie. Et elle me dit, elle compte mes 2 francs. Ouais, tiens. Et je sors, normal. Donc j'étais plus dans ce truc-là, tu vois. Donc c'était ça.
Ouais, elle n'osait rien dire parce qu'elle était terrorisée. Quoi.
C'est pour ça que moi je me disais, j'étais un bon voleur aussi. Donc, mais si tu veux, c'est pousser dans le truc. Et après, la musique, je veux dire, la musique nous a sauvés dans ce truc. C'est qu'on a mis toutes nos forces.
Et comment tu passes de ça, justement, à cette vie un peu décousue ou branleur, où tu te dis, allez, je vole, je suis chef de bande, machin, à un taf, parce que bosser de 24 heures d'affilée et s'impliquer et se concentrer, c'est le plaisir dans la douleur, quoi. C'est le plaisir dans l'exigence. Ouais. Tu passes comment le cap, là ? Parce qu'il y a une marche, là.
Je pense qu'il y a l'éducation aussi, déjà, et que... Nos parents, c'était, il faut travailler à l'école. Après, comme je dis, il y a le décès de mon père. Après, j'ai eu vite un boulot. Mon boulot, c'est un gars du quartier qui me dit, ouais, tu cherches du travail. Souvent, j'ai fait plein de petits boulots comme ça. C'était que des, tu cherches du travail, vas-y, viens. Et le fait même que je joue au foot depuis que je suis jeune, depuis que je suis petit, donc ça te donne un peu cette discipline de, vas-y, je vais aller comme un entraîneur ou un patron, vas-y. J'ai fait tous ces petits boulots. Jusqu'au jour où, justement, on a rencontré ce Kenzie qui nous a dit « Mais vous avez un talent dans l'écriture ?» Nous, on ne le savait pas avant qu'il nous le dise. On écrivait pour faire comme les rappeurs américains, machin. Il a dit « Non, vous pouvez... Moi, je veux monter une structure. » Donc, c'est lui qui nous a ramené l'histoire de structurer le truc. Votre musique, elle a ça, elle a cette force, mais il faut habituer les oreilles des gens à l'écouter. Donc, structure, tout, juste dans la musique. Quand on a pris nos premiers billets dans la musique, imagine-toi, en une heure, tu chantes, tu prends 10 000 francs. Nos parents, ils ne prenaient même pas 10 000 francs en un mois. Donc, si tu le mets en euros, on prend 10 000 euros pour une heure de chant. Mais je voulais rendre la monnaie tellement c'était trop. Je dis, attends. Et tu te dis, ah, c'est ça, et tout le temps, et waouh. Et on se regardait avec mon frère, waouh. Mais après, je vais faire que ça, moi, c'est beau. C'est... Ah ouais. Et on prenait tes forts là-dedans. Et comme. On écrivait au début, c'était un peu clandestin dans la chambre. Quand mon père est parti, tu vois, ma mère dit allez, chercher du boulot, tout ça. C'était les mots des femmes africaines, tu vois, pour leur du travail. Bon, l'école, vous avez un peu laissé, mais trouve du travail, voilà, NPE, machin. Et nous, on était là à écrire, rapper, mettre la musique à fond. À chaque fois, arrêtez votre musique, elle ouvrait la porte. Et jusqu'au jour où elle arrivait, boum, elle a encore ouvert la porte. Et non, c'est on s'est jeté pour arrêter la musique. Et là, elle était bizarre, elle était différente, et on la regarde, elle nous dit « Bon, vous voulez faire de la musique ? Faites-le comme un travail. » Et boum, elle a fermé la porte. Et là, silence, et on s'est dit avec mon frère, ce jour-là, on s'est dit « là, elle nous avait donné l'autorisation de faire de la musique. » Et ce jour-là, on l'a fait comme un travail, c'est-à-dire on l'a fait sérieusement. On a rencontré Kenzie, tout, et... L'album est sorti, on l'a fait sérieusement et on a vendu des 400 000, 500 000. Il y a une phrase dans le premier album où on dit t'as vu maman, on l'a fait. Parce qu'on l'a fait comme un travail et c'était ce jour-là, ça marquait ce truc. On passe de l'amusement à un truc sérieux.
Elle vous a responsabilisé en disant ça ?
Ouais.
Elle vous dit allez, c'est bon maintenant, c'est sur tes épaules.
Elle a dit faites-le comme un travail. Boum. Et pour nous, on s'attend à ce qu'elle vienne nous gueuler dessus comme d'habitude. Merde, il y a la madré. Ah. Et là, c'était bon, vas-y. Et du coup, maintenant, le son pouvait être là et on faisait sérieusement, tac, 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 on est sérieux. Et voilà.
Et toi, ça t'a renforcé quand elle t'a mis en responsabilité en disant, putain, là, ça y est, elle me prend sérieux.
Ah, ça change tout. On te responsabilise. Là, on te dit, vas-y, fais-le. Personne ne te surveille. Mais il n'y a rien de plus fort. C'est toi, toi et toi. C'est-à-dire, tu ne vas pas te mentir à toi-même. Et c'est ça, la force du truc dans la vie. Fais un truc, tu ne te mens pas à toi-même. Dès que tu prends une décision de faire un truc, ben, moi, je crois que c'est le moment le plus fort d'une vie, c'est que tu prends toi-même la décision. C'est 50% du travail. Le travail, après, mettre en pratique, c'est les 50%, mais le premier 50%, c'est quand tu décides, OK, je vais le faire. Et après, tu tiens. Et comme on dit, il y a l'habitude, après, la force de l'habitude fait que tu comptes plus tes heures, tu es habitué, tu souffres même pas. Ah, vous dormez pas la nuit, bah, on s'en fout, mais on kiffe.
Un prof de français, à un moment, on foutait le bordel et tout, puis on disait, ah, mais c'est dur et tout. Ouais. Et le prof, il nous avait dit, vous savez, on peut avoir du plaisir dans la difficulté.
Eh ouais. Et ça, c'est.
Ça m'a fait réfléchir, cette connerie.
Mais je te jure. Mais c'est fou, hein, mais il y a plein de trucs que je mets en pratique aujourd'hui. Je me rends compte à l'époque, après, je me repasse le livre de l'époque, je me dis, waouh, c'était vrai. Là, ce que tu viens de dire, moi, par exemple, je cours tous les jours. Et des fois, quand tu voyais des gens, des Kenyans, mais pourquoi lui? Comment il arrive? Ben, il a commencé un jour, il était comme toi. Hein. Et donc, aujourd'hui, tu cours, mais c'est pas dur. Mais parce que tu l'as fait tous les jours un petit peu, et tu t'es habitué, et voilà, le corps s'habitue à tout.
Et du coup, en termes, parce que quand tu te lances dans ton entreprise, parce que là, vous étiez entrepreneur, parce que clairement, il n'y avait personne derrière vous, enfin, il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas, il faut faire comme ci, faire comme ça. C'est Kenzi qui gérait tout et vous vous concentriez sur l'écriture non, ou alors que vous gériez la partie business en disant attends
Nous on était des soldats, c'est-à-dire que Kenzi c'était la tête, c'était le chef, c'était la tête pensante, c'était le mec qui a réuni, c'est l'agence touriste, c'est... il est arrivé, il a dit bon voilà moi j'ai mon idée, vous me manquez arsenic pour balancer le secteur, voilà. Et on a commencé dans un hall. On a fini en rachetant une banque avec un sas. Tu sais, des sas dans les banques là où tu sonnais. Ouais. Ben, c'était le secteur A à Sarcelles. On a repris une banque, des bureaux. Tac, secteur A, bam. Voilà, gros bureau, siège en cuir. Voilà. On était là entre nous comme ça. On dit waouh, on l'a fait. Et l'idée était partie dans un hall. On a fini dans un gros bâtiment, machin.
Est-ce que vous avez souffert quand tu étais petit?
Mais tu sais, quand tu es habitué.
Non, mais ouais, mais est-ce qu'il y avait une souffrance à la base?
Tu
ne
sais pas. C'est ça le truc. Après, moi, si je parle personnellement, souffrir, c'est peut-être pas le mot souffrir. Je sais pas. Quand tu t'habitues à un truc, tu souffres plus. Tu crois que c'est normal. Dans le sens où on a souffert. Par exemple, nous, moi, je me dis, à l'époque, on était plutôt pauvres, dans le sens où, voilà, vous n'êtes pas riche, vous êtes neuf, enfant, ta mère est jeune, père jeune,
elle faisait quoi comme métier, ta mère?
Je sais pas, au début, quand on était au pays, elle travaillait un peu dans la téléphonie, mais après, expatriée, tu arrives en France, tu peux tout sauver, elle a fait des ménages, elle a fait des trucs, et plus tard, après, elle a bossé un peu dans l'administration, et après, en vieillissant, après, elle a bossé à la mairie. Donc, il y a eu tout ce cheminement. Mais nous, l'époque vraiment du machin, peut-être qu'elle se débrouillait comme nous, système. Tu dois nourrir tes 10 enfants. Donc, tu te débrouilles, tu fais tous les boulots qui existent. Et nous, ben voilà, c'était pas la souffrance, c'était notre mode, quoi.
Mais ça se ressent parce qu'il y a, par exemple, il y a un morceau qui s'appelle « Sexe, pouvoir et bifton » dans « Quelques gouttes suffisent ». Et l'intro, elle n'est pas de vous, c'est un extrait d'un film de John Woo.
Ouais.
Mais si vous l'avez mis au début d'une chanson qui en plus est emblématique, donc je pense que si elle est emblématique, c'est parce que vous, elle vous a touché avant de toucher les autres.
Ouais.
Et l'extrait, il est quand même très violent et très parlant. C'est « Moi, je sais ce que je veux. Tu sais c'est quoi? Être un putain de bourgeois, gagner du blé à rien glander. Je veux surtout pas retourner de là où j'étais. Je veux plus tirer les pompes d'un enculé pour avoir à gagner ma vie.
Ouais. »
C'est hyper violent, c'est hyper dur.
Ben,
enfin, je veux dire, il n'y a qu'un mec qui souffre qui peut écrire ça.
Souffrir. Moi, maintenant,
la rage et la souffrance,
là,
quoi,
aujourd'hui,
tu vois,
le calbeau d'aujourd'hui, je vais te dire, oui, il y avait une souffrance. Mais le calbeau de l'époque te dira, non, je ne souffrais pas.
Et dans quel état d'esprit tu balances des mots comme ça?
Ben, tu te dis, c'est ce que tout banlieusard pense. C'est-à-dire que c'est quand tu es un mec de banlieue, tu dis je veux des meufs, je veux de l'argent, je veux des... et je veux pas travailler pour quelqu'un, je veux voilà. J'ai une grosse voiture, j'ai une piscine, voilà.
Mais sans savoir pourquoi. Quoi.
Sans savoir pourquoi. Voilà. Et moi, je dis toujours aux gens, des fois, quand j'ai des... Quand je dis, quand je vois une meuf qui pleure, « Mon mère, un bâtiment, ouais. » Je dis, mais quand tu étais petit, tu dessinais quoi dans sur ton... Tu dessinais pas une maison avec un chien, un petit soleil en haut, un arbre. Ben, on rêvait tous de ça. On était tous dans les cités, pourtant. Mais quand on disait, bah, dessine ton rêve, là, ben, il y avait une maison, un arbre, un chien.
Une rivière, un arc-en-ciel.
Voilà. Tous, on voulait tout ça depuis longtemps. On disait pas, on dessinait pas un bâtiment avec la fenêtre au 10e étage. On habitait. Personne ne dessinait ça. Personne ne dessinait une tour.
Et moi, ce que je trouve la grosse force, en fait, d'Arsenic, c'est que vous avez réussi à mettre des mots très bien exprimés et ouais. Très travaillés, très et finalement vous avez renvoyé tous les rappeurs à leur ouais. À leur dico à leur Becherel quoi ouais. En disant quelque part sauve-toi avec tes mots quoi ouais. Parle, exprime
le travail comme ma mère avait dit, faites-le comme un travail, c'est-à-dire on aimait bien le français, les lettres, Lino, il lisait beaucoup, encore plus que moi même à l'époque.
Il lisait quoi ?
Ah, beaucoup, même on était très cinéphiles déjà et on lisait beaucoup dans tous les journaux, on les a mangés, on aimait bien les films de kung-fu, tous les films d'aventure, machin. Et ouais, je sais que Lino lisait beaucoup, moi pris dans le foot, dans le machin aussi, j'étais très sport moi. Mais j'aimais on était rêveurs, et j'aimais les dissertations, les machins, ça me passionnait, l'histoire aussi. Et le rap, c'était un peu ça, tu racontes des histoires et il faut des métaphores, il faut inventer des trucs comme dans les dissertes. Bah, tu me donnes un texte.
Brassens, c'était déjà à l'époque ?
Ah, mais je kiffais Brassens.
Parce que Brassens, c'est un putain de contestataire.
C'était le premier rappeur. Moi, j'ai toujours dit, c'est le premier. Pour moi, c'était un rappeur. Contestataire, les métaphores, les machins. Le truc que nous, on se disait, même avec Lino, on aimait dire. Quand tu écoutes Arsenic, écoute-le une fois. Après, tu l'écoutes une deuxième fois dans le noir. Et après, une troisième fois, tu vas comprendre ce qu'on raconte. Tu ne vas pas comprendre tout de suite. Mais tu... Ah ouais, souvent, le mec... Ah, j'ai... Waouh, c'est ça qu'ils ont dit. Waouh. Que des conneries comme ça, tu vois. Parce que nous, on tournait les mots. Tu vois, le mot, il commence là, il finit là. La métaphore, tac. Je ne veux pas dire... tu vois, c'est un peu là où les gens vont dire « il pleut dehors, nous, le ciel pleure, le machin », tu vois, on va aller tout de suite dans ces trucs-là. On va se prendre la tête sur un texte parce qu'on ne voudra pas être scolaire, on cherche toujours le labyrinthe, quoi.
Et la volonté derrière tout ça, c'est exprimer les tripes, les
exactement.
Émotions, quoi.
Et on se mettait ce challenge de faire des textes, mais avec des métaphores, des trucs, des... Voilà, nous-mêmes, on se mettait cette petite mission de faire « Non, on ne va pas écrire comme tout le monde. »
Victime de la mode.
Voilà, tu vois.
C'était chouette, moi, j'aimais bien.
On kiffait ça, bien sûr, mais...
Mais il y a un côté, j'arrive à dire, presque animal, en fait, où il y a un ressenti fort, et puis hop, ça se traduit, ça avance.
Et ça se travaille. Voilà,
et c'est peut-être ça qui a lancé, après aussi, déjà, l'album « Quelques gouttes suffisent », il est puissant. Parce qu'il est très,
ouais.
Il est très structuré. Vous avez mis combien de temps à l'écrire ?
C'est comme si on l'avait déjà écrit dans notre tête, dans le sens où on a trouvé. En plus, à l'époque, tu travaillais avec un seul beatmaker. C'est-à-dire, aujourd'hui, les mecs ils prennent plein de sons de partout. Nous, on a trouvé un mec, Jimmy Finger, et on lui a dit vas-y, viens avec nous, fais tous les sons. Et nous, on écrit sur tous les morceaux. Et on est parti à Blagnac, Toulouse-Blagnac, on s'est enfermé pendant quelques mois. On faisait tourner une musique, on écrivait le morceau, on enregistrait tout de suite, boum, dans la boîte, 1, 2, 3, et puis ainsi de suite. Hein,
puis vous aviez Candy qui avait déjà tout dans
voilà.
La tête là, qui traçait en disant ça va y aller là, et après
puis
là.
Lui, des fois, il te balançait un concept comme ça, il te balançait un titre, il te balançait un thème.
Et toi, tu te vois comme un soldat à cette époque-là, en disant « je fais ce qu'il me dit et j'avance,
ah
j'ai
ouais,
confiance ».
Ah ouais, parce que sa vision, elle était tellement… Tu sais, quand quelqu'un vient te voir et te dit un truc et le truc se passe, t'as envie de le suivre, hein. Tu te dis… Au début, je le prenais pour un fou, mais le gars, tout ce qu'il disait, c'était clair. Lui, il n'avait pas l'air fou, il était très clair dans son truc. C'était quelqu'un qui lisait beaucoup, il avait la vision, il nous soumettait des livres, il nous soumettait des films, il était déjà en avance sur tout, sur son temps. Lui, c'était le mec qui arrivait, qui faisait croire aux maisons de disques, vous êtes ringard si vous ne signez pas mon groupe. Ils n'avaient rien compris. Et les mecs étaient là quand Kenzie parlait et les gens se taisaient.
Et du coup, il y a quelque chose qui s'est passé de fort. Et moi, je le ressens maintenant, je comprends ça de mieux en mieux. C'est vraiment cette capacité à transformer les émotions en mots et en messages. Ouais. L'aventure Bissona Bisso.
Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est un moment de notre vie qui est énorme, comme tu dis. Et c'est ce qu'on a vécu avec Bissona Bisso. À la base, on a fait ce collectif pour répondre aux guerres qu'il y avait dans notre pays, soi-disant des guerres ethniques.
Au Congo.
Voilà, au Congo. Et nous, il y avait beaucoup de rappeurs congolais, mais d'ethnies différentes en plus, ça tombait bien. Donc on s'est réunis, on a formé un seul collectif, on l'appelait Bissona Bisso, donc tous ensemble, entre nous. Et on a fait un groupe, un morceau, à la base, pour répondre aux guerres du Congo. Ne vous battez pas, regardez, nous, non, tous ensemble, on est tous congolais, machin. Et on l'a fait écouter à la radio, et le mec nous a dit « Waouh, mais c'est fort ça !» Et à l'époque, il faut savoir que le rap, c'était très américain. Donc rap africain, aujourd'hui, t'entends beaucoup de rythmes afro, il n'y avait pas. Donc nous, quand on est arrivé, on a repris les classiques de nos pères, de nos mères, les tubes de leur époque, et on l'a transformé en rap, on l'a fait avec du rap. Et au début, les gens étaient sceptiques, « C'est quoi ça ?» Et nous, on l'a fait « Non, c'était personnel, c'était pas un truc qu'on voulait diffuser à tout le monde, c'était ciblé pour le pays. » Et le gars de Skyrock à l'époque, le patron, Laurent Bounou, qui dit ouais, pas mal ça,
c'est bien c'est ça. Dansant.
Ouais, vous devrez faire un album, faites un album. Bah, nous, on était partis, on s'est réunis pour faire un morceau. Donc, on n'avait pas l'ambition de faire un groupe ni un album. Un morceau, Not We Are the World, qu'on envoie au pays, boum, ok, faites un album. Ouais, bah, c'était les vacances, mois d'août. Vas-y, on s'en fait. Faites un album et puis moi, je vous fais au Zénith. Ça sent le Zénith, ça.
Ah bon, vous étiez 8 dans Bissona
Bisso. On n'a fait qu'un morceau. Et tu parles déjà de Zénith, de machin. Surtout que les gens, ils sont pas habitués au rap africain et tout. Et derrière ça, on dit, bah, vas-y, on le prend au mot. On s'enferme chez Passy. Il avait une grande maison. Je te balance, Passy. Une grande maison. Il y avait un studio en dessous. On s'est enfermé là-bas. On mangeait barbecue, bière 8-6, babababababab. Et en un mois et quelques, on a fini l'album de Bisso. Et pas qu'on a rendu la galette, donc on n'avait plus un seul morceau, on avait plusieurs morceaux. On a pris 2-3 beatmakers qui ont fait des sons, nous on chantait à 5h du matin, à 6h, ça dormait, ça chantait. Ah, c'est quoi le morceau? Waouh, moi aussi je vais poser, ta ta ta. On l'a fait comme ça dans une joie. Et on a rendu donc la galette, et là c'est. Et des morceaux, waouh. Et. Après, la promotion a fait, comme on était déjà les groupes secteurs, il y avait Benji, Passy, Arsenic du secteur A, il y avait les deux balles, tout ça. On tournait déjà dans les radios. Et la radio a fait le pari sur ça et puis ça a explosé. Quoi. Et on a fini au Zénith, Zénith plein, pas que des Congolais, de toutes les couleurs, Benetton, le bordel. Et voilà, et ça, on a vécu 10 ans, deuxième album encore 10 ans, Nelson Mandela, Bababé, les présidents, tous les pays, c'était ouf, alors qu'on était venu pour faire un petit tour. Et c'est là où justement le retour au Congo, qui a fait là où j'ai vraiment pris conscience, en voyant le peuple se lever, pleurer, c'est là où je me suis dit, putain, la puissance de l'écriture, la puissance des mots. Nous, on l'a fait sans prétention, comme ça, pour avoir notre petite pierre, mettre un peu la lumière sur cette guerre. Et on finit dans tous les pays, des stades entiers qui chantent. Et même tous les pays francophones, Canada, Suisse, toutes les îles, et tout, on a tout fait. Et voilà.
Mais parce que quand vous écrivez cet album, vous y mettez quoi, en fait?
Notre cœur. Mais notre cœur de déraciné, mais en fait, quand tu es déraciné, il faut savoir que quand tu es issu de la banlieue, tu es africain, mais tu es déraciné sans être déraciné, parce que tous les week-ends à la maison, tu écoutais de la musique africaine. Hein. C'est le père, le patriarche, il impose sa musique. Hein. Je ne crois pas que tu vas bien te mettre ton CD de rap quand ton père est à la maison.
Donc,
c'est du franco, du Koffi Olomide, du Zaïko Langa Langa. Tu es là, supporte. Hein. Donc, on a grandi avec ça, hein, les hockey jazz, les groupes africains. Donc c'était normal pour nous de chanter, rapper sur des musiques africaines. On a grandi avec.
Ah, moi, c'était Léo Ferré à la maison, mais ouais, il n'y avait pas moyen de mettre du métal. Hein,
Quoique. Ah ouais.
Et du coup, après, qu'est-ce qui se passe après Bissau na Bissau?
Après Bissau na Bissau, donc c'est une deuxième carrière. Donc on avait Arsenic, Bissau na Bissau. On a même tenté une autre carrière avec Noyau Dur, donc que des membres.
Parce que c'est la fin du secteur A, là, après Bissau na Bissau.
Ouais, la fin sans être la fin. Mais tu sais, la fin, tu la calcules pas, en fait. Après Bissau na Bissau, on a fait le deuxième album d'Arsenic. Donc on est retourné encore dans un autre album. Donc encore une autre époque, encore une tournée. Tu chantais encore les premiers albums, les morceaux que tu devais faire un deuxième album. Donc comme je dis tout à l'heure, au début, un album, tu le chantais 10 ans, 15 ans. Donc on n'avait pas fini de tourner avec le premier album quand on était déjà en train d'écrire le deuxième. Et entre-temps, au milieu, il y avait Bissau na Bissau. Donc l'aventure Bissau na Bissau qui a duré des années aussi. Donc on était Arsenic. Des fois, on disait, ouais, je te présente Calbo. Calbo d'Arsenic. Arsenic, Calbo Bissau na Bissau. Ah, Bissau, oui, oui. Donc ceux qui connaissaient Calbo d'Arsenic, ceux qui connaissaient Calbo de Bissau, on avait vraiment deux carrières, quoi. Et après, il y a eu encore des albums, après il y a eu des solos, des trucs, et puis Noyau Dur, c'était un groupe qu'on a tenté de faire. On a fait un album qui était super bon, moi jusqu'à aujourd'hui, je le kiffe. Mais on n'est pas, on a fait deux, trois dates, on est retourné encore dans nos trucs. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des grosses périodes de trous, mais après, justement, on a eu des enfants, des trucs, donc t'as envie un peu de... Tu sais, quand tout ce que je te raconte là, c'est vraiment du début du bâtiment. On n'était même pas sorti de notre chambre d'ado. Jusqu'à là, ben on n'a fait que des concerts, des machins. Donc, à quel moment j'ai vécu, entre-temps, j'ai eu un enfant entre Bissau et l'album. Tu rencontres une femme, un enfant. Donc, t'es père. Avant, tu étais un petit gars de quartier. Maintenant, t'es un père. Maintenant, c'est...
Ah, c'est allé vite, tout ça.
Ah ouais. Et tout dedans, en fait. On a toujours été... artiste en même temps, ben jusqu'aujourd'hui on est artiste, donc, mais là j'ai plus l'expérience, donc on peut gérer des trucs. Mais il y a eu des hauts, des bas, des séparations, des machins, tu vois. Donc tout ce qui forge un homme. Quoi.
Vers la période 2010, 2005-2010, c'est peut-être c'est ça, non?
Ouais, voilà. Ouais. T'es au courant?
Ouais, j'ai bossé. Il connaît pas, mais il apprend vite. Voilà.
Ben, c'est ça.
Et comment on vit justement ça, rappeur à 20 ans, rappeur à 40 ans? Un moment, tu vois, écrire la rage, transmettre des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand ta vie, elle ressemble plus à ce que tu écris quelque part ou à ce que tu représentes, du moins?
Mais ça, c'est pour ceux qui n'écrivent pas leur vie. Alors que nous, on a toujours écrit notre vie.
Tu regardes Renaud, par exemple. Ouais. Je pense que ce qu'il a tué, ouais, c'est le succès parce que c'était un révolté contestataire. Ouais. Et il est devenu un bourge millionnaire, ouais, tout ce qu'il voulait pas. Comment tu veux écrire, tu vois, comment tu fais dans cette évolution?
La question, c'est pourquoi un bourge millionnaire ne pourrait pas écrire pour les jeunes qui sont encore dans la situation où il était, lui?
Ben, je ne sais pas.
Voilà. Donc, tu vois, et ben nous, avec notre évolution, ok, j'avais villa. J'avais une belle maison, une femme, des belles voitures, machin. Mais mes cousins, mes sœurs, mes frères, mes tantes, mes oncles qui étaient toujours dans le machin. Et donc toi, tu as la chance d'avoir un micro et tu peux parler pour ces gens et tu continues. Toi, tu as fait du rap. Tu sais, un rappeur, il a rappé à 20 ans, il ne va pas se mettre à chanter de l'opéra à 40. Hein. Il va toujours rapper. Sinon,
qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Renaud et Doc Gynéco qui soutiennent Sarko, par exemple? Tu te dis, putain, ça, là, il y a de l'écart, là. Là, il y a du... Là, ça là, travaille, là.
Là, il faut aller chercher dans les trucs en dessous, t'as vu? Là, la façade n'est pas... Je préfère que tu te dises, il y a un truc qu'on ne nous dit pas.
Ça veut dire qu'à 50 ans, tu vas chanter « J'ai embrassé un flic »
Non, après, c'est chacun son chacun, comme on dit.
Ouais, ouais. Mais
moi, je pense qu'il y a des trucs en dessous. Après, voilà. Et puis, moi, on n'a jamais voulu se coller avec les politiciens. Mais par exemple, quand on a fait un morceau comme Une saison blanche et sèche, où on insulte le Front National dedans, mais on se dit, aujourd'hui, le Calbo de l'époque disait, oui, le Front National, les fachos, nanana, certes, il y en avait beaucoup, il y en a encore. Mais ils n'ont jamais été au pouvoir, ces gens-là. aujourd'hui, donc qu'on les décrivait comme les causes de nos malheurs de l'époque, mais en vrai, non. Ben non, en vrai. Ben, le Jean-Marie, il a fini sa carrière, il a jamais gouverné, le bordel. Il nous a pas fait chier, en fait. Ben ouais. Nous, les fachos, peut-être qu'il y en avait dans nos quartiers, mais on les voyait pas.
Ben ouais, t'imagines, c'est comme à la campagne où on parle des mecs des banlieues, ben alors qu'il n'y en a pas un, et ben en banlieue, les mecs...
Ou le facho, il est là avec nous, mais il le dit pas. Et ouais, donc... pourtant, on a chanté le truc, donc voilà. Donc, si tu veux... en grandissant, tu chantes toujours les... parce que rien n'a changé. Moi, quand je prends les morceaux qu'on a écrits en 98, tu peux les mettre aujourd'hui, c'est la même chose.
Alors, hein. Qu'est-ce qu'on peut raconter aujourd'hui dans le rap qui n'a pas déjà été dit ?
Il y a trop de choses à raconter. Qu'est-ce que je pourrais te dire qui n'a pas encore été dit ? Ça, on l'a dit. Mais il y a trop de choses. Ça ne change pas, mais ça empire. Regarde le Covid aujourd'hui, regarde ce qu'on subit aujourd'hui. Moi, je me dis, mais... on n'a pas fini de rapper. Moi, je sais qu'il y a encore des projets, on va en parler à la fin, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a encore plus de choses à dire aujourd'hui qu'avant. Donc, je ne comprends pas que les mecs parlent de leur bite et leur couteau. Il y a trop de choses à dire. Ouvre ta fenêtre, il y a trop de choses à dire. Prends le train, prends le métro, va dehors, il y a trop de sujets.
Et qu'est-ce
que tu penses
de Kenny Arcana qui dit « je ne suis pas une rappeuse, mais une contestataire qui fait du rap » ?
Ben, je suis d'accord. Nous, on a dit qui prétend faire du rap sans prendre position. On a fait un morceau dans l'album de Lino où on dit « Ne m'appelle plus rappeur ». Dans son album Requiem, « Ne m'appelle plus rappeur », ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire « Si ça, pour toi, c'est du rap, bah, ne m'appelle plus rappeur. » Alors, et si tu écoutes le morceau, il est très explicite. On dit des choses. Bah, parce que le rap, il fallait dire des choses. C'est le rap a été fait pour être la voix des sans-voix. C'est-à-dire, tu dis ce qu'on vit en banlieue, bah, tu le dis avec ton micro de rappeur.
À un moment, je ne sais plus comment vous le disiez, mais vous disiez, il y en a qui pensent qu'avec un double disque d'or, je ne suis pas capable de raconter encore la vie de tous les jours.
Mais... alors que non, parce que le disque d'or, c'est juste un objet, mais la vie, elle ne change pas. Parce que moi, je vais toujours à Villers-le-Bel, je vais chez mes gars, c'est toujours les mêmes trucs. Et des fois, je vais au magasin, je vois les mêmes lascars qui étaient là il y a 30 ans. Donc, je dis, ça n'a pas changé.
Ils ont vieilli.
Mais leur problème, c'est toujours les mêmes. Leurs frères, et moi, je dis même... c'est encore pire aujourd'hui qu'avant, parce que nous, on avait ce fameux Miguel qui nous a ramené en Hongrie. Moi, aujourd'hui, personne ne va ramener ces petits jeunes-là en Hongrie. Ils sont toujours devant les halls à tirer des sacs. Donc, tu vois, donc si personne ne le fait...
Et justement, ouais. Alors, est-ce qu'en vieillissant, il n'y a pas la question de la transmission, quelque part, et de dire...
Bon, allez... Tu te sens plus responsable. Quand tu es jeune, tu chantes un peu avec ton cœur comme ça, et en grandissant, ben, tu as plus de responsabilité. Donc, tu fais attention à ce que tu dis, c'est plus précis. Et c'est plus ciblé, et déjà, toi, c'est plus clair. Donc, il y a des choses qu'on disait avec le cœur, qu'en grandissant, tu dis avec la tête.
Hein? Donc, s'il y a encore des choses à dire, ça veut dire qu'il y aura des morceaux à écrire ?
Ah, bien sûr. Il y en a, et puis je transmets aussi. Moi, j'ai ma petite Laura Yenich, là. Moi, j'aime dire que c'est ma meilleure élève, c'est-à-dire à travers elle. Moi, c'est une petite qui écrivait super bien, qui avait là cette pêche que nous on avait. Moi, je me suis reconnu en cette petite. Et voilà, moi, j'ai aiguisé sa plume. Et voilà, maintenant, c'est une petite arsenic, quoi.
Conne Meuf, elle l'a écrit avec toi ou avant ?
C'était elle ? T'as dit quoi ?
Conne Meuf, son morceau. Conne
Meuf, non, ouais. C'est pas un morceau, ça.
Si, bah, les 10 commandements.
Ah, Conne Meuf, non, c'est avant moi.
C'est avant toi.
Excuse-moi, c'est moi.
Mais
qui...
c'est bien elle, hein. On est d'accord.
Ouais, mais je connaissais
la
pas.
La blonde, là.
Ouais. Moi, je l'ai prise, en fait. Je me suis occupé d'elle. Un jour, elle est venue me voir. Et j'ai la même technique. Moi, je connais la dureté du rap pour l'avoir vécu, pour l'avoir. Voilà, comme disait Kenzie, je suis parti en couille, laisse-moi te raconter comment c'est là-bas. Tu vois, donc si tu comprends le truc, il dit je suis parti en couille, je vais te raconter comment c'est là-bas. Et nous, on a vécu le rap, on a vécu ses difficultés, ses hauts, ses bas, et elle arrive dans ce milieu. Donc moi, quand j'ai une artiste comme ça qui est jeune, pour tester un peu si elle en a et si elle peut supporter, si elle va pouvoir supporter les nuits de studio, la douane, c'est-à-dire la douane, c'est tu rap mais on n'est jamais satisfait. Donc tu es là, tu as l'impression que toi tu tues, mais nous on dit non, tu tues pas. Donc imagine-toi, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour supporter ça. On dit non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. On te dit ça 100 fois, et tu pètes les plombs. Ben non. Jusqu'au moment où la 102e fois, on va dire, oui, c'est bon.
Tu peux sortir.
Tu peux sortir.
Donc, deuxième couplet.
Et donc, pour voir si elle pouvait supporter ça, et ben, je lui pose la question, je lui dis, t'aimes le rap? Juste ça. Je lui dis, t'aimes le rap? Elle m'a répondu, c'est ma vie. Ah, j'ai dit, tu vas pouvoir supporter la douane. Parce que si ce n'est pas ta vie, tu ne peux pas supporter. Et nous, comme Lino à l'époque, on n'avait que ça. À un moment donné, ben voilà. Moi, j'avais 2-3 petits trucs, mais on était prêt à supporter dur au mal parce que tu kiffes, en fait. Et si tu ne kiffes pas ça, tu ne peux pas supporter tout ce qu'il y a derrière.
Et est-ce que ce n'est pas un peu étrange comment ça se passe de vouloir mentorer des jeunes? Alors que vous avez été mentoré par personne, vous avez violé tous les codes, vous.
Ouais.
Et de dire, tiens, je vais me positionner en mentor, est-ce que déjà, tu ne deviens pas une autorité à casser, quoi, tu vois? Le contestataire, il ne veut pas d'autorité.
Ouais, mais c'est le petit coup de « je ne vais pas mourir, donc je vous envoie mon soldat, ouais. Moi, je suis derrière ». Et nous, comme on a là, dans ma position, c'est qu'on a encore quelque chose à dire. Ah, pour le mettre, oh, c'est pas mal en plus, j'ai gardé ce petit titre-là, quelque chose à dire. Donc, nous, on pense qu'on doit, comme on dit avec mon frère, on doit encore un album à nos fans, entre guillemets, un troisième album. On a souvent annoncé ce troisième album et on s'est dit, on n'arrêtera pas notre carrière tant qu'on n'aura pas donné ce troisième album. Et donc, on le donnera et on est parti dans des solos, dans des projets. Mais malgré tous les projets qu'il y a, j'écris un livre, machin. On fera ce troisième album.
Ouais, mais déjà, il devait sortir en 2017.
Oui.
Après, il devait sortir en 2019. On est en 2021.
Tant qu'on alors, donnera les dates.
À moins que tu aies du lourd, tu vois, à dire.
Ce sera du lourd obligé, parce qu'on n'a que du lourd dans la bouche. On ne sait pas faire autrement que du lourd. Et en plus, du lourd fort.
Ce sera pour 2021
Je sais. Non. Non, parce que 2021, elle est solo. Donc, il y a des solos à balancer. Et puis, allez, peut-être, hein, 2022, qui sait.
Peut-être.
Ouais. Ouais. Mais on va le faire, c'est obligé. Et tu sais que ce que les gens ne savent pas, et je vais vous l'annoncer, il existe des morceaux d'arsenic cachés comme dans les films de kung-fu. Là. Tu sais, il y a un livre, le livre des 5 forces, caché derrière un placard ou sous un rocher. Il existe des morceaux, dont un qui avait fuité du studio qui s'appelait Mince. Chaque fois, il me sort de la tête. C'était, il y avait un morceau qui avait fuité d'arsenic. De 2015. Et on avait fait 20 morceaux. Mais personne n'a entendu. On a voulu, après le concert à l'Olympia des 20 ans, on a voulu sortir un CD de quelques gouttes suffisent avec ces 15 morceaux en plus. Quelques gouttes en plus ou machin, nanani. Et c'est pas sorti. Donc ils sont là, ils sont quelque part. Et des fois, je les écoute, je dis putain, c'était fort. Même aujourd'hui, c'est des morceaux de 2005, je crois, 2005. Mais tu les écoutes aujourd'hui, tu as l'impression qu'on les a fait aujourd'hui.
Que vous avez jamais sorti.
Jamais sorti.
Et donc ils sont cachés chez vous quelque
cachés,
part.
Cachés sous un rocher, dans le jardin.
Oui, ils sont pas trouvables, ils sont pas dans
trouvables,
les lieux publics.
Pas dans les réseaux.
Ouais, voilà, ouais.
Si je te le fais pas écouter, tu peux pas savoir. Et je te jure, ils sont bons.
Donc ouais. Ceux-là, ils feront partie du troisième album.
Non, parce que je connais mon frère et sa folie. Lui, s'il l'aime pas en 2 jours, il peut changer. Donc là, c'est des morceaux qui ont des 10 ans, des 15 ans. C'est sûr que... Mais ils existent, donc peut-être qu'on les lancera comme ça, dans un délire de compil. Moi, avec maintenant les réseaux, ils méritent d'être écoutés. Quand je les écoute, hein, j'ai un fils de 19 ans, maintenant, je me dis, ah, il mérite d'être écouté. Écoute ça, il y a des morceaux qui sont très forts.
Et comment tu vis le changement dans le rap actuel?
Au début,
il y a moins de boulot quand même. On va pas se cacher.
Oui, au début, j'étais le vieux con. Fermé, donc dès que j'entendais le vocodeur, j'avais des plaques qui se fermaient, comme ça, clac, tu mets un rideau. Et après, ben, comme je te dis, j'ai un fils de 19 ans, il me dit, ah, mais papa, il m'a dit une phrase qui a tout changé. Il m'a dit, papa, oui, mais ça, c'était votre rap. Donc, en gros, je me dis, bah oui, mais ça, c'est le rap. Nous, quand on est arrivé, il y avait NTM, il y avait les Lionel D, nous, on est arrivé, on a changé les codes. Bah, il faut accepter que derrière, oui, il y a d'autres trucs qui m'ont
PNL,
changé.
PNL, c'est quand même vachement travaillé.
Bien sûr. Après, justement, quand j'ai levé le rideau, enlevé les œillères, et j'ai écouté différemment, avec une autre approche, bah, c'est là que je me suis dit, ouais, il y a des mecs dans ce marasme de rappeurs, si on peut les appeler comme ça, parce que beaucoup chantent, ben il y avait des bons. Il y avait des bons. Il y avait des Fianso, il y avait des Dilom, il y avait des. Il y en a plein qui sont bons. Mais il faut les écouter maintenant.
Orelsan, il a son style.
Bien sûr. Mais encore une fois, c'est la manière dont tu approches les trucs. Et puis il y a des mecs, ouais, ils sont. Comme à notre époque, il y a des bons et des mauvais.
Et PNL, ouais. En termes de marketing, ils ont une approche qui est c'est une tuerie.
Ah oui.
Je veux dire, les mecs, ils ont rappé sur la Tour Eiffel quand même.
Et puis c'est clair.
Ils sont posés sur la Tour Eiffel.
Les clips sont beaux, il y a l'attitude. Tu sais, nous, on aime quand il y a ce travail, justement. Nous, comme à notre époque, on disait, moi, un rappeur qui vient sur scène comme il est dans la rue, ça ne me parle pas. C'est quand même.
Un peu de boulot.
Comme disait maman, fais-le comme un travail, frère. Habille-toi. Nous, on mettait des habits neufs quand on montait sur scène. On n'arrivait pas avec le blouson, mon anorak de tout à l'heure. Tu vois le délire ? Où tu arrives, tu vois l'artiste et tu vas te faire bloquer à l'entrée parce que les vigiles t'ont pris pour un lascar. Mais non, c'est lui qui va chanter. Tu vois ? Nous, tu nous voyais arriver, on faisait Rostar. Et on monte sur scène, on était toujours secla, tu vois. Et donc, on tenait quand même, et c'est ça. Et PNL, c'est des mecs qui travaillent leur style, qui travaillent leur concept. Et là, tu vois, Ressin, il travaille ses clips, il y a un travail. Quand tu vois un travail, c'est énorme. Moi, celui que je préfère, c'est pas un nouveau, mais moi, Kerry, j'ai toujours kiffé Kerry pour ce travail avec Lalassi dans ses clips, tout ça. Même Booba, il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Mais moi, je kiffe le gars parce que lui, c'est l'original. Il y a beaucoup de copies, mais lui, c'est l'original.
Après, je ne sais pas ce que vous en avez pensé ou si tu en as discuté avec Kenzie, par exemple. À un moment, il disait le streaming, ça a tué le rap quelque part.
Bah ouais,
mais... Sauf que tu vois, des mecs comme PNL, ouais. Eux, c'est les enfants des réseaux sociaux.
Ouais.
Et ils ont un marketing qui est clairement adapté au streaming et aux réseaux sociaux.
Leur époque.
Ouais.
Attends, maintenant, les rappeurs, ils vont vendre des trucs. Hein, je vends ça pour pas que... Pff, c'est trop. Les streaming, c'est quoi les streaming? Tu sais, des fois, je vois des mecs qui streament, j'ai déjà vu des mecs qui font des millions de vues et ils font 3 personnes dans un concert. Ils sont où les millions de gens qui streament des trucs? Moi, je préfère faire aucune vue et que je remplis mes salles. Mais ils sont où les gens virtuels? Ils sont quoi dans leur canapé? C'est le petit rouquin dans un truc qui ne va pas en concert mais qui clique. Ça va. Donc, c'est quoi les streamings, les disques d'or, tu comprends plus, c'est quoi? Nous, disques d'or, c'était précis, 100 000 albums vendus.
Ah, mais comment tu fais? Il n'y a plus de disques.
Mais c'est ouf.
Ouais, mais on vend plus de disques. Il n'y a plus de disques.
Maintenant, c'est quoi le streaming? Comment tu calcules ça?
Je sais pas.
Voilà, je vois. Moi, je sais pas. Je suis dedans, mais je sais pas.
Mais je me dis que les nouveaux, les pionniers, enfin les créatifs d'aujourd'hui, ouais. Bah eux, ils savent. Enfin, tu vois, je me dis, il y a peut-être des passerelles à faire.
Ouais, puis il y a des gens, pour. Tu sais, maintenant, moi, comme je t'ai dit, je produis des gens. Donc, on va être obligé. J'ai dû mettre ma tête dedans, comprendre un peu le truc. T'es obligé, c'est les outils maintenant de maintenant. On va s'en servir. J'ai dû me faire violence pour rentrer là-dedans. Et voilà, pas finir en vieux con, comme j'avais démarré en vieux con. Mais j'ai compris ce que tu voulais me dire, mon fils. Lui-même, il est dedans, et voilà. Et donc, comme on dit, le rap, c'est cyclique, hein, ça fait un tour. Hein. Donc là, à un moment donné, on va revenir un peu à ce rap pur et dur qu'on avait à l'époque.
Et du coup, dans les projets que tu as pour la suite, toi?
Mais moi, j'ai toujours, tu sais, moi, à l'époque, déjà, à l'époque, j'avais écrit pour Asia, le morceau « Elle est à toi », le morceau « Là-bas ». Donc, j'aimais déjà écrire. Donc, j'ai écrit, là, en ce moment, j'écris pour beaucoup de groupes, des jeunes groupes. Justement, j'ai dû étudier le kung-fu un peu de leur style d'aujourd'hui. Et donc, on écrit ensemble aussi avec ma petite rappeuse. J'ai bien aiguisé sa plume. Maintenant, elle a bien le style arsenic dans son écriture. Donc, je la produis aussi. Et j'avais écrit beaucoup de morceaux à l'époque qui ne sont pas sortis. Et je me dis, je vais les sortir. J'ai écrit un bouquin de toute l'histoire que je te raconte maintenant. Tous les dessous qui va s'appeler avec les éditions Manset, édition. Donc, je vais sortir bientôt le livre. Quelque chose de plus, ou quelque, je sais plus comment je l'ai appelé, merde, mais en tout cas, c'est un quelque. et où je raconte les dessous d'Arsenic, de Bissona Bisso, les anecdotes. Vraiment, on va bien rigoler dedans. Et voilà, donc je m'amuse dessus, j'ai d'autres projets. Et bah, le Covid, pour moi, je me suis servi de cette période du Covid pour faire tout ce qu'on n'a jamais eu le temps de faire ou qu'on a pensé faire. Bah, je me suis servi de cette époque. Pour moi, quand on me dit ça, l'époque, le Covid, moi, c'était la meilleure époque de ma vie. Ah ouais, j'ai enlevé 20 kilos sur mon corps. Et
le confinement, disons.
Le confinement, mais bon, personnellement, j'ai jamais été confiné. C'est parce que t'es confiné, c'est un mot qui est tellement fort. On peut nous confiner, mais on ne peut pas te confiner de l'intérieur. Et si tu es toujours déconfiné de l'intérieur, personne ne peut te confiner, en fait. Ok, on est confiné, donc qu'est-ce que tu fais? Ta femme, tu n'avais pas le temps de la voir, maintenant tu la vois. Tu fais quoi? Tes enfants, tu n'avais pas le temps de les voir, tu les vois. Tu ne pètes pas les plombs, vas-y, fais des choses. Apprends à mieux les connaître, fais des choses avec eux, fais des choses avec ta femme, fais des choses que tu ne faisais pas. Il n'y a plus de métro, boulot, dodo, tu fais quoi? Tu fais des nouveaux trucs. Et donc, moi, j'ai fait que des nouveaux trucs et que des trucs que j'avais pas le temps de faire. Là, j'ai eu le temps de tout faire. Et voilà, me recentrer, faire des trucs de fou et repartir dans le sport à fond. Et voilà. Et donc, là, tu te dis, j'ai jamais été confiné, en fait. Parce que je me suis jamais confiné, moi.
Et du coup, pour toi, c'est comment tu arrives à concilier le business du rap avec les messages, le côté artistique et le message que tu veux faire passer? Puisque le business, ça brasse énormément d'argent quand tu réussis.
Ouais.
Donc, c'est vous qui vous en occupiez ou c'était Kenzie qui gérait et puis vous donnait l'argent
au
derrière
début, au début, c'était Kenzie, bien sûr. C'était Kenzie qui s'en occupait. Après, plus tu as du succès, plus tu génères du business dans le sponsoring.
Mais qui négocie?
Nous, on négociait, ça vient. Il y avait les gars qui étaient chargés de tout ça. Mais après, tu essaies de mettre ton œil parce que tu vois que... Il manque 2-3 euros, t'as vu, sur le côté. T'as envie de voir un peu plus, de connaître un peu plus en grandissant. Excuse-moi.
Pas de souci.
Et, après, tu te dis maintenant, au-delà d'être un artiste, aussi un produit. Donc, le fait même que t'ailles dans une boîte t'asseoir, tu gagnes de l'argent juste pour t'asseoir. Tiens, ah ouais, moi j'ai déjà emmené des gens s'asseoir dans une boîte et ils ont pris les 7000 euros. Ah bon, juste pour t'asseoir. Ah, champagne, non. Ah, ok. Présence, ok. Donc, il y a ça. Et derrière, il y a des... Voilà, maintenant, quand tu prends conscience de ça, tu calcules un peu tout. Et là, aujourd'hui, je suis producteur. Maintenant, bien sûr, je vais être obligé de calculer tout ça.
Puisque le métier de producteur, t'investis d'abord.
Ah, t'investis d'abord.
Coûte quoi d'investir sur un artiste? Qu'est-ce qu'il faut?
Ça coûte tout ce qu'il y a autour. Ça coûte les clips, ça coûte tout ça, la bouffe, les trajets. Dans les séances de studio, on a 30 morceaux, donc tu comptes un peu tout. Donc, et voilà, c'est toi qui sors tout. Le moindre centime, c'est toi qui le sors.
C'est quoi un album à peu près en ordre de grandeur, on peut dire
En ordre de grandeur, tu sais pas. En fait, ça dépend toujours de ce que tu peux faire. Nous, comme on a un propre studio qui nous appartient, donc t'as pas à payer ce qu'il faut payer. Mais dans le studio, t'as un ingénieur. Un ingénieur peut arriver selon ses heures. Tu peux lui donner du 100, du 80 euros. Donc tu comptes, après, il y a les mix. Après, il y a les mastering. Donc voilà, il y a toujours de l'argent à sortir là-dedans. Mais allez, ça dépend si t'aimes ton artiste. Mais tu peux sortir facilement. Aujourd'hui, après, c'est différent. C'est plus notre époque. C'est vrai qu'on n'est plus à la même époque. À l'époque, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans les maisons de disques. Donc, je me rappelle, on faisait des clips qui pouvaient atteindre des 100 000 euros, des 100 000 francs, ou 15 000 euros, 20 000, 30 000, 40 000, tu peux monter. Mais aujourd'hui, pour 1 500, 500 euros, les gens font des clips. Même avec des téléphones, les gens font des clips. Avant, on pouvait sortir des hélicoptères dans les clips. C'est plus la même chose. Mais, allez, avec un bon 15 000, 20 000 euros, tu peux sortir un album, tu peux faire un album. Ouais.
Donc c'est ça aujourd'hui que ça coûte un album pour lancer un artiste à peu près l'ordre de grandeur, c'est ça quoi?
Ouais, si tu tires un peu dans tous les côtés, ouais. Bien sûr.
Ouais. Et du coup, après, faut vendre.
Après, faut vendre. Donc tu vas vendre quoi?
Ouais. Et donc, tu vends à l'ère d'Internet?
L'originalité, les réseaux sociaux. Le pourquoi les gens, tu vas passer, les TikTok, les machins, être le truc du moment, le truc que les gens vont kiffer, trouver la sonorité qui va faire que tout le monde va te reprendre en boucle les vues. Bon, après, il y a ceux qui achètent et ceux qui sont sérieux, mais je préfère être sérieux là-dedans. Et pour vendre, ben, moi, je dis toujours aux gens, sois original.
Je veux dire, c'est les concerts, par exemple. Là, tu vends des billets, quoi.
Pour vendre des concerts, il faut déjà être bien connu. Il faut que tu sois demandé. Et après, bien sûr, les concerts font que... Mais les clubs aussi. Les clubs, souvent, en club, tu gagnes de l'argent. Tu imagine-toi si tu tournes à partir du jeudi, vendredi, samedi, dimanche, un artiste qui tourne vendredi... C'est toujours les concerts qui font que... Aujourd'hui, les artistes sont nourris par les concerts, hein, plus... Hein. Plus que par les streamings ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est plus ça qui va te rapporter. Mais pour ça, il faut vraiment streamer. Il faut vraiment être connu pour que tout le monde te demande que tu tournes toute l'année. Hein? Après, tu peux générer un beau budget au final à l'année si vraiment tu tournes toute l'année. Tu fais entre les clubs et les concerts.
Donc, c'est-à-dire quand tu lances un artiste, il faut mettre, allez, on va dire 20 000 euros. Ensuite, il faut qu'il soit connu. Donc, tu as encore de la promo, j'imagine. Ouais, tu as encore 2-3 frais à sortir. Ouais. Et là, jusqu'au concert, tu gagnes pas trop d'argent, quoi.
Voilà.
Mais parce que si ça se vend plus, la musique.
Voilà. Mais si tu as bien fait ton boulot, bah, imagine-toi que si tu mets, allez, 50 000 euros dans ton artiste et que tu l'as tellement fait exploser que tu le fais tourner à 15 000 euros la soirée. Imagine, tu tournes du jeudi au dimanche pendant un an déjà. Tu as rentabilisé tes 50 000 euros. Donc il y a ça aussi, après il y a des sponsors qui vont arriver, le moindre truc qui va soulever, voilà, tu vas te faire payer des clips, tu vas te faire payer tes passages partout où tu vas passer, bah vas-y, tu me payes. Ah, tu veux voir mon artiste, tu payes. Voilà, donc...
Donc au final, ça se professionnalise, enfin c'est très professionnel le milieu du rap, c'est
pas... Bah oui, maintenant c'est très... Bah oui, depuis le temps, c'est... Il y a beaucoup de gens autour maintenant, tu vois, et c'est très, très, très professionnel.
Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui veut se lancer maintenant, qui veut rapper?
Bah déjà, de croire en lui, de ne pas écouter ce qu'on lui dit autour. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une idée, la seule façon d'échouer, c'est que tu arrêtes. La seule façon de réussir, c'est de continuer. Et ne laisse personne te dire ce que tu dois faire. L'originalité, justement, tu ne seras jamais aimé par tout le monde. Et donc, l'originalité, justement, c'est de faire ce que tu aimes faire. Moi, j'aime dire, t'imagines si quelqu'un était rentré dans la salle de Picasso, quelqu'un qui faisait son tableau avec un œil en haut, un œil en bas, il lui dit, les yeux, ils sont pas perpendiculaires, t'as vu. Remonter l'œil, t'as vu. Il a fait son délire, et puis voilà. Mmh. Bah, fais ton délire et fais-nous aimer ton délire. Aime ton délire. Et fais-moi aimer ton délire. Voilà. Et n'écoute personne. Seulement ceux qui te tirent vers le haut.
Eh ben, merci beaucoup, Calbo.
Eh ben, merci à
toi. À très bientôt.
C'était très intéressant.
À bientôt. Ouais, on va se revoir.
Voilà. Merci.
Merci à toi.